franceinter.fr.
Le débat de midi. Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Sarah Guibaudeau.
Vous voulez tuer la présidentielle?
Alors non, vous exagérez. On se pose la question pendant une heure. On se demande si finalement ce qui nous est présenté toujours comme une sorte d'absolu démocratique, l'élection présidentielle au suffrage universel direct, est véritablement un absolu démocratique. Faut-il ou non supprimer l'élection présidentielle? Le premier président de la République en France s'est arrangé pour devenir empereur. Il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte et ça en dit long sur l'étrangeté de la fonction. Depuis 1962 et le suffrage universel, le président est désigné par le peuple et pourtant les analogies continuent. Le président habite le palais de l'Élysée. Louis XIV tirait son pouvoir de Dieu, le président du peuple, d'autant que l'élection présidentielle est celle où l'on s'abstient le moins. Proposer la supprimer, c'est tout de suite tuer la démocratie, mais de quelle démocratie parle-t-on? On vote pour un homme qui devient responsable de tout, de la crise, du chômage, de l'augmentation de l'essence et même du vase de ma grand-mère qui vient de se casser. Un homme responsable de tout, mais aussi qui décide de tout, puisque tout passe par l'Élysée. Aujourd'hui, certains commentateurs n'hésitent plus, nous sommes, disent-ils, en monarchie républicaine. Les historiens le savent bien, ce sont les rois qui font la France, ça marche aussi avec les présidents de la 5e, une différence toutefois est de taille. Le roi l'était à vie, le président est là pour 5 ans en ayant à peine le temps de gouverner. Élection trompe-l'œil, point d'interrogation, faut-il supprimer la présidentielle? On prend une heure pour se poser la question.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et trois invités aujourd'hui pour se poser cette question. Guillaume Perrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro et co-auteur de ce livre, Les présidents, il y en a eu un petit paquet, La République pour les nuls. En face de vous, Arnaud Lepilouer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Poitiers et co-auteur de À quoi servent les élections? Et puis nous attendons Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge et auteur de ce livre sorti il y a peu de temps, Le poison présidentiel. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Mais comme tous les mardis, c'est avec Libé que nous ouvrons l'émission et c'est avec vous, Alain Onfray, bonjour.
Bonjour.
Et cette question rituelle, qu'est-ce qui fait débat dans vos pages à Libé en ce mardi 7 juillet?
Alors, on a naturellement la Grèce qu'on développe très très largement. Et l'actualité continue par ailleurs, donc on a d'autres sujets, en politique notamment, on a un entretien un peu surprenant avec Rachida Dati.
Un entretien en effet très surprenant, où elle bat en brèche avec, disons qu'elle remet totalement en cause, pour le dire autrement, la doctrine sarkozyste à laquelle on était habitué.
Ça dépend de quel Sarkozy on parle. Rachida Dati, c'est l'icône du Sarkozy de 2007. Celui qui apprenait la discrimination positive, même la laïcité positive, celui qui n'était pas très hostile au droit de vote des étrangers, Rachida Dati, elle est un peu l'icône de ce Sarkozy-là. Et elle est très mal à l'aise, nécessairement très mal à l'aise, parce que elle peut pas l'accepter, avec le tour très identitaire qu'a pris le discours du parti Les Républicains, les discours sur le voile des accompagnatrices de sortie scolaire, le voile à l'université, l'affaire des cantines scolaires, toutes ces questions-là la troublent beaucoup, et on pourrait même citer aussi le fait que dans la plupart des discours de Nicolas Sarkozy et de bien des leaders du parti aujourd'hui, la question de la défense d'un mode de vie, il y aurait un mode de vie à défendre, ça fait un tabac auprès des militants quand ces propos-là sont tenus, et mon soupçon, c'est que Rachida Dati était assez mal à l'aise avec ça, et ça se confirme.
Elle avait besoin de se livrer, en tout cas, avec des mots qui, en effet, sont à contre-courant, à rebours de ce qu'on entend en ce moment chez les Républicains. Elle dit, par exemple, c'est dans l'article que vous publiez aujourd'hui, il faut être nuancé, c'est le prosélytisme qu'il faut combattre, ces signes de combat, cette volonté de provoquer. Certains élus cèdent à la facilité et disent, puisque l'islam fait peur, il vaut mieux tout interdire, mais sait-on vraiment pourquoi telle jeune fille porte une robe longue au lycée? Pourquoi telle maman se présente avec un foulard à la porte de l'école? Et elle reparle en effet de ces femmes dont vous avez parlé à Montpellier, qui sont pour elle, qui veulent plus de mixité à l'école, loin de l'incarnation du communautarisme dont on parle aujourd'hui.
L'exemple est excellent, il faut reconnaître. Elle dit, dira-t-on de ces femmes qui, certes voilées, mais qui se battent justement pour lutter contre ce que Valls a appelé l'apartheid, ce que d'autres appellent les ghettos, dira-t-on d'elles qu'elles sont l'incarnation du communautarisme? La réponse est non.
Quel écho aujourd'hui trouvent les propos? Bon, il est un peu tôt parce que c'est une petite bombe là qu'elle lance à Rachida Dati depuis ce matin, mais quel écho peuvent trouver ces paroles au sein de la famille de Rachida Dati, les Républicains?
Alors là, je ne m'avancerai pas trop. L'hypothèse que ce soit un petit peu étouffé par l'actualité, par ailleurs très riche, n'est pas négligeable. Mais enfin, ça restera. On n'oubliera pas qu'elle a tenu ces propos-là. Et lorsque, parce que ça se terminera certainement comme ça, elle est très politique et elle a envie de rester dans le jeu. Donc lorsqu'elle rejoindra, c'est mon hypothèse, Nicolas Sarkozy, ce sera de la part de Sarkozy le fait de la prendre comme, je ne sais pas dans quelle fonction elle sera, mais enfin, ce sera un signe qu'il ira dans cette direction. Je veux dire par là que ce que j'appelle le discours identitaire qui est actuellement tenu, je peux prendre le pari que ce ne sera pas celui qui tiendra jusqu'au bout, pas jusqu'à 2017.
Ah bon ?
Oui, ça m'étonnerait, je pense.
Mais sur quoi vous vous fondez pour Guylaine Oettingheimer qui vient de rentrer dans le studio?
Si, je me fonde sur quelque chose d'assez évident, c'est que il est actuellement dans une entreprise de rassemblement de son camp, de son noyau dur, de ceux qui lui garantissent de toute manière environ 15, 20, 30% à la primaire, et après il faudra rassembler plus largement. Et donc Rachida Dati peut très bien être l'instrument de ce rassemblement plus large, ce qui m'amène à dire d'ailleurs que ce qu'elle dit ce matin dans Libération, gêne pas forcément tant que ça Nicolas Sarkozy, puisqu'un jour, ils se retrouveront.
En tout cas, ce qu'elle dit aussi, c'est que aller chasser sur les terres du FN, ce qui s'est fait jusqu'à présent, ça n'a pas porté ses fruits. Elle dit d'ailleurs, textuellement, on ne fera jamais mieux que le FN sur cette question-là.
Oui, d'ailleurs, oui. On peut d'ailleurs se fonder sur les premiers sondages qu'on voit pour les régionales. On voit que, par exemple, Christian Estrosi, en PACA, fait pas de merveille, en tout cas dans les sondages. Et pourtant, Dieu sait s'il se donne du mal pour concurrencer le Front National.
Ben merci Alain Onfray. Cette interview donc de Rachida Dati à retrouver dans le Libé d'aujourd'hui. Libé qui est toujours à la recherche du titre. Avec la une aujourd'hui, c'est Eurodyssée. Faut-il supprimer l'élection présidentielle? C'est la question qu'on se pose dans ce débat de midi. Un débat qu'on commence en musique avec Synapson, All of You. Il est midi 14 sur France Inter. Vous êtes bien avec nous et vous avez raison.
I talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey.
Quick, just to play the game. No quit, open up your eyes.
Faut-il supprimer l'élection présidentielle? C'est la question qu'on se pose dans ce débat de midi jusqu'à 13h avec trois invités. Arnaud Lepilouer, professeur de droit public à l'université de Poitiers. Guillaume Perrault, reporter au Figaro, auteur entre autres de « Président de la République pour les nuls ». Arnaud Lepilouer, lui, a écrit « À quoi servent les élections ?» Et Guylaine Ottenheimer qui vient d'arriver. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du journal Challenge et puis auteur de ce livre « Le poison présidentiel ». De nombreux tweets et de nombreux mails nous arrivent sur cette question. David, par exemple, qui nous dit sur Twitter, David Power, qui nous dit point de suspension, alors là, c'est la blague du jour, on demande plus de démocratie et vous voulez supprimer les élections, dans le même ordre d'idées. Roulito qui nous dit, toujours avec un E, décidément ça laisse dubitatif cette question, on va vers la méthode Pinochet, sûrement pas point de suspension. Vous commencez votre livre, enfin vous ne le commencez pas, mais dans votre livre, Guylaine Ottenheimer, vous racontez une anecdote. Vous êtes invité à un dîner d'État, un dîner de la République, un dîner qui se passe à Versailles, le château du roi Louis Soleil.
Oui, je raconte un peu cette monarchie, mais je crois que pour répondre tout de suite aux tweets, aux tweetos, etc., mon livre, je ne l'ai pas du tout dit, il faut supprimer l'élection président de la République au suffrage universel parce que vous ôtez pas au peuple un droit qu'il a reçu, qu'on lui a octroyé. Même si, en fait, cette élection est un poison parce qu'elle dissémine un tas d'effets secondaires. C'est juste l'élection d'un homme avec le peuple, ça veut dire que d'abord, on raconte un peu n'importe quoi, et à toutes les élections depuis 30 ans, on raconte des choses qui ne se produisent pas. Je prends juste deux exemples. Chirac avait dit qu'il allait lutter contre la fracture sociale. Bon, bah, il n'a pas pu. Il y avait un problème de francs, d'euros, de budget. Donc, il est rentré dans les clous et la fracture sociale, elle a dû attendre. Nicolas Sarkozy allait tout le bouleverser. François Hollande allait faire du chômage sa priorité. Et donc, les gens sont déçus. Les gens ont l'impression que ça ne marche pas. Et ça fait 30 ans que ça ne marche pas.
Mais ça, c'est pas nécessairement, pardon, la faute à l'élection présidentielle au suffrage universel.
C'est justement ce que j'ai voulu expliquer. Et d'ailleurs, il faut pas supprimer l'élection du suffrage du président de la République. On peut la mettre de côté et lui donner de points de pouvoir. Ça ne marche pas parce que ce qu'il y a un truc qu'on appelle dans les universités américaines, qu'on étudie, qui s'appelle le decision making. Comment une décision est prise en amont, au moment de la prendre et le suivi. C'est très important et l'OCDE et un tas d'organismes internationaux font des tas d'études sur comment on prend des décisions, comment on fait des réformes. Ils font un process. Il ne faut pas simplement, sur le coin d'une table, au milieu de la campagne présidentielle, dire « je vais imposer les riches à 75% ou 70%. » Puis après, on ne peut pas le faire. On s'aperçoit que c'est plus compliqué. Et puis, on n'a pas validé la décision. Tout ça, ce sont simplement des effets d'annonce,
de
la communication, du marketing, exactement. Et derrière, la décision ne suit pas. Or, on s'aperçoit que tous les grands pays, moi, c'est comme ça que j'ai commencé ce livre, tous les grands pays de l'OCDE qui ont fait les réformes, non pas à cause de l'euro, mais parce qu'on est rentré dans un autre monde, qu'il y a la mondialisation, qu'on vit plus longtemps, qu'il y a des choses qui ont changé, tous les grands pays, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, tous les pays qui ont fait des réformes, ont des systèmes parlementaires. C'est-à-dire que c'est une collectivité qui prend la décision, on est plusieurs, on se surveille, on se spécialise dans un domaine, et c'est ensemble qu'ensuite on va devant les électeurs et qu'ensuite on conduit la réforme du pays.
C'est ce que vous soutenez dans votre thèse, Arnaud Pilouer, finalement que ce président de la République a à la fois le rôle d'autorité morale en tant que représentant de tous les Français, mais aussi le rôle d'autorité politique, puisqu'il a été chef d'une majorité et qu'il est au pouvoir élu. Comme cela.
Oui, absolument. On peut dire qu'il cumule sur sa tête les fonctions de la reine d'Angleterre et du Premier ministre britannique. C'est-à-dire qu'il est censé à la fois incarner le consensus républicain autour des institutions, qui est dans les pays parlementaires incarné par le roi ou le président de la République, et le chef d'un camp qui doit mener une politique efficace et qui est contrôlé par l'opposition. Et cette double casquette, en quelque sorte, est vraiment, à mon avis, quelque chose d'assez grave en réalité, dans la représentation que se font les gens de nos institutions.
Pourquoi?
Je pense que c'est la mine. Bah parce que le président de la République, quand il est élu, c'est tout à fait significatif, il commence par dire qu'il est le président de tous les Français. Ils font tous ça. Et en même temps...
Ce qui est vrai, il est le président de tous les Français.
Il est le président de tous les Français, alors il faudrait distinguer. Le Premier ministre britannique est aussi le Premier ministre de tous les Britanniques, simplement il ne le dit pas. Et pourquoi est-ce que le président de la République le dit? Parce qu'il veut incarner ce chef de l'État parlementaire, mais en même temps, il veut être le chef d'un camp. Et la dissociation qui existait auparavant des mandats, qui était 7 ans pour le président de la République et 5 ans pour l'Assemblée législative, lui permettait encore un petit peu de jouer cette carte de la longévité par rapport à l'action politique immédiate. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que si... vous savez, alors moi j'ai écrit un article qui proposait de supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel. Je l'ai écrit avec Pierre Brunet en 2011. À ce moment-là, personne ne parlait de ça. Et je pense que si aujourd'hui ça devient un thème à la mode, si vous organisez une émission sur ce thème, si quelques journalistes commence à en parler, sortir des livres, etc.
Le poison présidentiel.
Le poison présidentiel. Thomas Legrand aussi a écrit quelque chose en ce sens. C'est parce que je pense que ça commence à coincer, en quelque sorte.
Guillaume Perrault du Figaro, ça commence à coincer?
Alors, bon, je suis en désaccord, naturellement, avec les,
c'est pour ça que vous
les
êtes
analyses
là.
De mes honorables contradicteurs. En fait, bon, un constat pour commencer. Les Français, vous l'avez dit, Thomas, sont très attachés à l'élection du président au suffrage universel direct. Les taux de participation sont extrêmement élevés. 80% des Français se sont déplacés en 2012 pour élire le président au deuxième tour. 84% des Français s'étaient déplacés au deuxième tour pour élire le président en 2007.
Juste pour comparer, hein, les départementales, les récentes départementales,
voilà, c'était
50%
de taux d'abstention. C'est important de le dire. C'est en effet l'élection où l'on s'abstient pas.
Où l'on s'abstient pas, et en particulier les catégories socio-professionnelles populaires se mobilisent davantage pour élire le président, et dans une moindre mesure, leur maire, où le maire obtient 64-65% de taux de participation municipale. Toutes les autres élections, elles sont en dessous, elles sont autour de 50%, voire en dessous. Pourquoi il y a une telle mobilisation? C'est bien que ça répond à un désir des Français. Je constate qu'il y a une forte légitimité du président élu. C'est ma première remarque. Donc là, l'idée que je défends, c'est que ce n'est pas possible, d'abord, il y a un principe de réalité, c'est pas possible même de réduire les pouvoirs du président de la République, parce qu'on ne peut pas demander aux Français de se déplacer pour les faire élire René Coty ou Vincent Auriol ou Raymond Poincaré, c'est-à-dire le président qui n'ont pas inauguré les chrysanthèmes, parce que ça serait un peu méchant, ça serait un peu injuste. Mais enfin, un président qui aurait juste un rôle de représentation, une magistrature morale, comme ça a été le cas dans le passé, sous les républiques précédentes. Souvenons-nous que la 5e République, elle s'est fondée en réaction à la 4e République. Les gouvernements qui sautaient tous les 6 mois, ce qui a laissé un très mauvais souvenir aux Français. Ils ne veulent pas revenir à ce
en
système.
En tout cas, au général de Gaulle et à Debré, les pères fondateurs de cette constitution.
Vous savez,
constitution.
Non, mais même aux Français en général, les chefs de parti de la 4e étaient tout à fait conscients du discrédit de la 4e en 58. C'est pour ça qu'ils se sont résignés aussi.
58, c'est pas 62.
C'est pour ça qu'ils se sont résignés au retour aux affaires du général de Gaulle. C'est pour renforcer l'exécutif. Ils en étaient eux-mêmes partisans.
Alors, sur Twitter, ces messages qui nous arrivent, hein, l'Agathe Brave qui dit il faudrait commencer par remettre les législatives avant la présidentielle, sachant changerait un peu cette monarchie élective. Jean qui nous dit le dernier président gaullien, par exemple, pourrait constituer une 6e république plus intègre avec des citoyens dans l'action. Jean-Louis qui nous dit élu avec 51 à 54% des voix. En général, le président ne représente qu'un Français sur deux. Pierre qui nous dit désacraliser cette élection signifie forcément désacraliser la fonction présidentielle. On a évoqué la constitution de 58. 62, dit Guylaine Ottenheimer. 62, c'est le moment où le général De Gaulle propose par référendum que le président soit élu au suffrage universel. Ce qui, pour vous, est deux choses différentes.
Oui,
deux choses différentes, pardon.
Et comme j'ai fait une longue enquête sur cette élection, les propos de mon confrère du Figaro ne m'étonnent pas, puisque une poignée de conservateurs, parce que tout le monde considère qu'il y a un problème.
Ça commence.
Pratiquement tous les dirigeants politiques reconnaissent qu'aujourd'hui, on est dans une impasse en termes de décision politique, d'efficacité politique et même de démocratie. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Français très attachés, il y a un sondage qui a été fait, un seul, qui dit que quand même, il y a 56% des Français qui considèrent qu'il faudrait plus de pouvoir au Parlement. Ils ont conscience qu'il y a un problème. Maintenant, oui, il y a un taux de participation, parce que c'est devenu un espèce de jeu télévisé. Tout le monde s'y met, tout le monde y gagne. Les sondeurs font plein d'argent, les journaux font du tirage, les télévisions font de l'audience. C'est un espèce de on ne parle que de ça. 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance. Alors évidemment, le jour où, c'est comme d'aller, quand vous êtes passionné de chevaux, à l'Arc de Triomphe. Il y a un moment, il y a un événement qu'on peut pas rater quand on s'intéresse un tout petit peu à la politique. Mais vous allez voir, si la prochaine élection élections, il y a Sarkozy et Hollande, je ne crois pas qu'il y aura un taux de participation aussi élevé. Deuxièmement, maintenant, la question n'est plus tellement... la question, c'est de l'efficacité. C'est inefficace, ça produit de la déception. La France est le pays le plus pessimiste d'Europe, parce qu'elle sait que...
Mais mettez pas tout le dos au suffrage universel.
Pourquoi faire du président le bouc émissaire de toutes ces difficultés françaises?
C'est le système politique.
C'est le président devient le bouc émissaire de toutes nos difficultés.
C'est le système politique qui fait qu'on a des élections qui sont hyperbolées, Valère, avec des tas de promesses, un superman, un grand monarque, et 6 mois après, c'est la décision. Et comme le disait très bien monsieur, on ne peut pas à la fois être le représentant de tous les Français et le bras armé de l'action. Ensuite, on a changé de monde. Aujourd'hui, on est en 2015. Vous imaginez le patron de L'Oréal fonctionnant encore comme en 1960, c'est-à-dire responsable de tout, décidant de tout. Non, on sait très bien qu'il faut des niveaux de décision. Enfin, sur les excès de la quatrième, la constitution de 58 était assez équilibrée. Et je vous signale que tous les grands constitutionnalistes, y compris gaulliste, en 62, était hostile à la réforme de 62.
Les Français ont mal voté, puisqu'ils l'ont approuvé par référendum.
Mais la démocratie, le vote populaire n'est pas toujours celui qui... Il y a aussi, on pourrait dire qu'il a été élu Hitler. Oui, il y a des moments...
Oh, écoutez, mais non, vous mais en ce prie, que pas cette comparaison.
Si on arrive à cette comparaison, de la conversation, les Français sont Nottenheimer, on ne va pas s'en sortir.
Donc, les Français sont irrationnels, dites-vous, il faut les rééduquer. C'est ça que vous êtes en train de dire.
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a des...
Ils ont mal voté, ils ne sont pas rationnels, et moi je vais leur expliquer, dites-vous ce que vous êtes...
Je ne vous ai pas coupé la parole.
Mais si, madame, vous m'avez coupé la parole, simplement vous trouvez ça normal.
Vous aurez tout le temps parlé.
Laissons à 62 ce qui est Guylaine Ottenheimer, s'il vous plaît.
Michel Debré, le père de la Constitution de 58, y est hostile. Il y a une lettre de lui montrant qu'il y est hostile. Mazot y est hostile, Foyer y est hostile. Tous les grands constitutionnalistes savent que c'est un poison. Et De Gaulle dit, une fois qu'on aura fait ça, personne ne pourra le défaire. Il sait très bien ce qu'il fait le général
Guylaine Ottenheimer.
C'est un poison qu'on n'arrive pas à déverrouiller.
Guylaine Ottenheimer, dans votre livre, vous interviewez de nombreux hommes politiques, de droite comme de gauche. On a Jean-Pierre Raffarin qui dit que cette élection au suffrage universel, c'est une fabrique à égo, c'est pathologique. Je le cite, c'est entre guillemets, c'est dans votre livre. On a Jean-Marc Ayrault qui dit « On n'arrive plus à produire de décisions politiques, on est dans l'affichage permanent ». Donc aujourd'hui, en 2015, si, comme vous le dites, tous les hommes politiques sont d'accord pour reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement dans cette 5e République, pourquoi est-ce que quand ils sont au pouvoir, rien ne change?
Est-ce que vous avez remarqué que ça manque, les hommes politiques aujourd'hui manquent un petit peu d'audace? C'est vrai qu'il faudrait de l'audace aujourd'hui pour remettre le pays sur pied, à la fois par une politique effectivement économique courageuse, mais je crois qu'aujourd'hui, on s'interroge, on dit Hollande est plus bête que Pompidou, Nicolas n'est pas à la hauteur de Giscard, je n'en sais rien. Je crois que ce n'est pas seulement une question de caractère et d'homme, je crois qu'il y a un moment, vous avez une machine infernale qui se met en route pour être élu, vous venez d'en parler, Nicolas Sarkozy doit courir après l'électorat du Front National, l'autre doit courir après l'électorat de Mélenchon, tout le monde fait des promesses comme ça, marketing, d'affichage, pour gagner les élections. Et derrière, on n'arrive pas à produire une politique.
Arnaud Le Pilouer, professeur de droit.
Il me semble que le débat part un peu mal, parce que il me semble que d'abord le signe égal qui est mis depuis le début entre élection du président au suffrage universel direct et démocratie me semble vraiment quelque chose qu'il faut contester tout de suite. C'est-à-dire que aucun système politique dans les grandes démocraties occidentales ne fonctionne comme ça, où toute la légitimité démocratique du suffrage universel se déverse sur un homme. Sauf à adopter une définition un peu extensive de la démocratie et de déranger la Russie. Mais sinon, ça ne fonctionne nulle part comme ça. Il faut quand même se poser des questions sur ce point. En réalité, ce mode de désignation des gouvernants, il est à la fois inutilement compliqué en réalité, contrairement à ce qu'on croit, et il est absurde et même un peu mensonger. Il est inutilement compliqué parce que dans les régimes parlementaires, le pouvoir est conféré à travers les élections législatives. On élit des députés et la majorité qui se dégage nomme un gouvernement, en quelque sorte, qui va mener les affaires du pays. Nous avons besoin, pour conférer le pouvoir, de deux élections, celle du président et celle des députés. Alors, du coup, ça provoque une situation relativement absurde, puisque pour que le système fonctionne correctement, il faut que la majorité parlementaire soit la même que celle du président. Sinon, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a lors des élections législatives en France comme débat? On a le parti vainqueur des élections présidentielles qui dit « il faut donner une majorité au président ». Et les autres qui ceux qui ont perdu, qui disent il faut essayer de donner une moins grande majorité au président. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'il soit trop fort. Autrement dit, on attend des Français, et c'est un déni de démocratie, excusez-moi, on attend des Français qu'ils votent correctement lors des législatives. Et c'est pour ça qu'il y a une forte abstention. Vous prenez une conséquence pour la cause. Ça n'est pas une adhésion à l'élection présidentielle. C'est qu'ils se rendent bien compte, tout le monde leur dit, leur rabâche, les partis qui ont perdu les élections y compris, qu'il faut absolument donner une majorité au président. Et là où je finis, c'est que c'est mensonger également. Pourquoi ? Parce que c'est mensonger tout simplement parce que qu'est-ce qui détermine au final ? Quelle est l'élection la plus importante institutionnellement ? Si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, il va vous dire les présidentielles. Mmh. Eh bien non, ce sont les législatives. Qui gouverne en France ? Celui, le parti qui gagne les législatives. La preuve en a été faite avec la cohabitation. Si vous avez un parti qui gagne les présidentielles mais qui perd les législatives, c'est celui qui aura gagné les législatives qui gouvernera, pas celui qui aura gagné les présidentielles. Et ça, on fait comme si ça n'était pas le cas. Donc notre système tout entier fonctionne sur une espèce de mensonge.
Mettre fin à l'élection présidentielle, d'accord, mais pour la remplacer, par quoi ? C'est la question de notre débat de midi. Juste après le disque, nous serons au téléphone avec une professeure de droit. Elle propose que la fonction du président soit l'homme ou la femme du long terme, dégagée des contingences, on vient d'en parler, de la politique du quotidien. On en parle juste après Iggy Pop et son King of the Dog. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous occupe. Il est midi 33 sur France Inter. I don't want no shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king of the dog. I got a piece of meat in between my teeth. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dog. Pop sur France Inter, King of the Dog, il est midi 35.
Le débat du midi, Thomas Chauvineau sur France Inter.
Et jusqu'à 13h, pardon, on se pose cette question, faut-il supprimer l'élection présidentielle, avec Guylaine Ottenheimer, auteur de ce livre, Le poison présidentiel, Arnaud Lepilouer, qui est professeur de droit, auteur, lui, de ce livre, À quoi servent les élections, et Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro, co-auteur des Présidents de la République pour les nuls. Ces messages qui nous arrivent sur Twitter, Antoine qui dit il faudrait d'abord que les députés représentent vraiment leurs électeurs et non pas leur parti. Barbero qui nous dit pourquoi ne pas évoquer ce tirage au sort, et ça revient souvent, l'idée du tirage au sort du président de la République, idée qui a plusieurs milliers d'années, tant que ça. Cet autre message de Jean Duverger qui nous dit toujours sur Twitter, oui, il faut supprimer cette particularité française, elle bloque l'évolution urgente du paysage politique, le met en danger. Et puis nous sommes également, je le disais avant le disque, au téléphone avec Marianne Coindé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez coécrit un livre, Plaidoyer pour une 6e République, dans lequel vous proposez que le président soit l'homme du long terme, qui s'inscrive vraiment dans le long terme, loin de la politique quotidienne.
Tout à fait. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle « Pour une 6e République écologique », dirigé par Dominique Bourg, avec en particulier Bastien François, dans lequel on reconnaît que la situation actuelle n'est pas du tout satisfaisante. Le président est trop puissant, il peut pas être contrôlé de manière efficace, ce qui génère des abus de pouvoir, des dangers pour le respect de nos libertés et des problèmes aussi pour le respect de la volonté du peuple quand on voit que la popularité du chef de l'État est très faible. Donc il faut changer, il faut faire quelque chose. Alors que faire? Les Français semblent du moins très attachés à l'élection de leur chef. Simplement, pour l'instant, elle produit de mauvais résultats. Donc l'idée, ce serait de revenir à l'élection d'un chef qui serait le Premier ministre à travers les parlementaires, comme ça se fait en Grande-Bretagne, en Allemagne. Les Anglais, les Allemands choisissent leur chef, qui est le Premier ministre, à travers les élections législatives. Alors le gros avantage, c'est que ce chef peut être contrôlé, et s'il ne respecte pas la politique voulue par le peuple, il est renversé à tout moment. Alors à quoi servirait le président à ce moment-là? Eh bien, ce président pourrait toujours être élu par le peuple. Alors, soulignons, votre auditeur tout à l'heure disait c'est une spécificité française. Non, le président est élu directement par le peuple dans la moitié des pays de l'UE. C'est énorme, 14 sur 28. Parmi eux,
ils n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs dans la moitié des pays de l'Union européenne.
C'est le pouvoir qu'a le président.
Exactement, exactement. Donc, c'est pas l'élection du président qui fait ses pouvoirs. Mais même dans plusieurs de ces pays, il a des pouvoirs plus importants que le président français. Donc la spécificité du président français ne vient ni de son élection, ni de ses pouvoirs, mais d'une combinaison de facteurs, notamment avec le scrutin majoritaire, avec les habitudes mentales, qui font qu'on est habitué à ce qui dirige tout.
Quel serait le rôle pour vous, alors, de ce président? On a bien compris que c'était donc le Premier ministre qui gouvernerait véritablement, mais voilà. Quel serait le rôle du président?
Alors, le président...
Ou de la présidente.
Ou la présidente, effectivement. Donc, ce président ne dirigerait plus le Conseil des ministres, ne signerait plus les lois, les décrets, tout ça, ne nommerait plus, ne s'occuperait plus de la politique étrangère. Donc, il ne ferait plus rien de tout ça. En revanche, ce qu'il ferait, c'est qu'il serait là pour veiller au long terme, pour veiller au respect, notamment et en particulier de l'environnement à long terme. Par exemple, il aurait le pouvoir de saisir le Conseil des ministres, il disposerait d'une administration spécifique qui puisse l'informer des problèmes environnementaux, il pourrait saisir aussi le Parlement, il disposerait d'un veto constructif, c'est-à-dire qu'il s'opposerait à une loi qui serait trop dangereuse pour le long terme, et il pourrait demander une deuxième lecture au Parlement. Donc il aura un pouvoir limité quand même, parce qu'il pourrait seulement freiner et obliger le Parlement à réfléchir, à entendre les experts, à mieux faire la loi, mais ça serait un pouvoir essentiel. Et alors pourquoi un besoin du long terme? C'est parce qu'on s'est rendu compte en réfléchissant aux problèmes écologiques que les échéances électorales sont à relativement court terme, alors que les processus écologiques se font à très long terme. Et c'est donc au long terme qu'il faut penser.
Eh bien, merci Marianne Coindet d'avoir été au téléphone avec nous en direct aujourd'hui. Je rappelle donc ce livre que vous avez coécrit pour une 6e République écologique sur franceinter.fr, ce message de Nishta qui nous dit « Il ne faut pas supprimer cette élection directe, mais peut-être faudrait-il rendre obligatoire l'élection et que les votes blancs ou nuls aient une vraie signification. » Et Pinashka qui dit de son côté « Il ne faut pas supprimer les élections présidentielles. Dans notre système politique, ça donnerait une autorisation à tout abus de pouvoir de mise en place d'un système totalitaire. » Guillaume Perrault.
Alors, à part l'argument sur l'écologie, tous les arguments invoqués ici étaient déjà sur la table en 1962. Le débat, il est aussi ancien que la Ve République. François Mitterrand, en 64, a fait un pamphlet célèbre, Le coup d'État permanent, où il disait à peu près ça. Il soutenait l'idée que le président écrasait tous les autres pouvoirs.
Arnaud Montebourg l'avait appelé la machine à trahir de son côté. On en a en effet
En 92, un intellectuel libéral de l'époque, un disciple de Raymond Aron, qui s'appelait Jean-François Revel, avait écrit un bouquin très percutant, un style très brillant, qui s'appelait L'absolutisme inefficace, où il plaidait cette thèse avec brio. Alors pourquoi il ne me convainc pas? D'abord, il y a une tendance française à vouloir chambouler les institutions sans arrêt. Quand il y a des problèmes constatés dans le pays, et évidemment il y en a, quand on ne parvient pas à les résoudre, ça ne peut pas être de la faute des Français, ça ne peut pas être de la faute de la classe politique, et donc on accuse les institutions qui deviennent le bouc émissaire de toutes nos défaillances. C'est plus confortable, c'est plus simple, et ça ne me paraît absolument pas convaincant. Par ailleurs, il y a une obsession qui consiste à vouloir adapter en France les modèles étrangers. C'est-à-dire qu'on dit « Regardez les Anglais, chez eux, ça marche. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous ?» c'est ce qu'on appelle dans le monde, dans l'entreprise, dans le jargon anglais qui s'est imposé, le benchmarking. Et on veut absolument que nos institutions françaises de la Ve République obéissent à ce même principe. Il y a beaucoup d'universitaires en 62 qui étaient extrêmement hostiles à l'élection, non seulement à la méthode retenue pour le référendum, mais au fond même de la réforme. Et c'est ce que De Gaulle appelait, avec ironie, les notables et les notoires. Bah oui, mais les Français, ils sont attachés. Je le répète, parce qu'on a l'air de trouver ça un argument absolument dérisoire.
Mais est-ce qu'on pourrait pas envisager quand même, Guillaume Perrault, dépoussiérer peut-être un peu du coup cette constitution?
Je vais parler net. Il y a chez beaucoup de commentateurs et d'intellectuels une défiance envers l'intervention directe du peuple et du suffrage populaire.
D'où
cet attachement au principe représentatif et au Parlement qui permet, selon les tenants de cette thèse, d'être dans la raison et pas dans la passion.
Il y a peut-être un brin de provocation dans les propos de Guillaume Perrault, mais à vous.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, je me trompe, ou j'ai raté un épisode. Donc il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le principe du suffrage universel de l'élection, il s'agit simplement de dire que élire un chef en estimant qu'il va résoudre tous les problèmes, etc., je crois que ça mine de l'intérieur finalement la manière dont les gens se conçoivent la démocratie. En fait, c'est une conception assez archaïque de la démocratie que de croire. Un collègue avait parlé de conception tribale de la démocratie, parce que c'est ça, on s'assemble sur la place du village, on élit un chef, puis on est content.
Écoutez, il faut prendre les Français comme ils sont, il faut les accepter comme ils sont. Je crois que c'est vous, à les changer.
C'est vous qui méprisez le peuple.
Écoutez, en pensant qu'on ne peut pas expliquer quelque chose d'intelligent au peuple.
Je sens une condescendance
dans vos propos. Je regrette que vous tombiez dans ces jugements.
En tout cas, il y a quand même une sorte de surprise quand on regarde un peu les commentateurs étrangers, pas forcément français. Par exemple, dans le Financial Times, pour préparer cette émission, je lisais cette constitution, donc la constitution française, fait du président de la République le dirigeant le plus puissant de toutes les démocraties occidentales. Guylaine Ottenheimer.
Je ne suis pas du tout d'accord que ce soit une facilité de s'attaquer à la Constitution. Moi, ça fait mon 15e livre. J'ai étudié beaucoup des travers de notre société, de ses blocages. Alors, on peut dire que ce sont les syndicats, on peut dire que c'est les grands corps, que c'est l'administration, la technostructure, comme l'avait dit Chirac. Enfin, on peut trouver des tas de phénomènes très spécifiques de la France. Mais in fine, on s'aperçoit que tout ce qui génère ces espèces d'effets secondaires, ces petites maladies, à l'origine, c'est un défaut de fabrication de notre constitution. Quand dans une usine, les produits sortent de travers, on change le directeur, on change le directeur technique, on modifie un petit peu la machine, et puis au bout d'un moment, on finit par s'apercevoir, et c'est souvent les ouvriers qui en sont conscients, que ça ne marche pas. Il y a un grand think tank américain qui a fait toute une note en disant « La France n'a pas un problème économique, elle a un problème d'institution. » Donc c'est pas juste un délire d'un petit commentateur français qui simplement a voulu se faire les dents sur les institutions parce que c'était plus facile que de se poser les questions pourquoi ce pays avait tant de difficultés à se réformer. Et moi, je veux bien qu'on soit content avec un système qui produit inexorablement plus de déficits, plus de chômage, plus de perte de défiance dans l'avenir.
Est-ce que c'est pas rendre les institutions responsables d'un peu trop de nos mots français? Je raconte dans le livre,
et c'est un petit peu long à raconter, je raconte par exemple la décision du pacte de responsabilité. C'est compliqué. Mais en gros, si la décision de s'attaquer à la compétitivité des entreprises avait été faite par les parlementaires, il faut savoir qu'à la commission des affaires économiques, les parlementaires ont les mêmes auditions, qu'ils soient de droite ou de gauche, et ils suivent les dossiers d'un quinquennat ou d'une législature à l'autre. Donc ils savent très bien ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ils auraient très bien pu continuer ce qui avait été fait par le précédent gouvernement Fillon, c'est-à-dire en fait une base de charges et une hausse de TVA, qui était la meilleure solution. Simplement, il fallait qu'on marque le passage à un autre quinquennat, et on a fait ce CICE et ce pacte de responsabilité, qui ne fonctionne pas très bien, qui a mis du temps à se mettre en place, qui nous a provoqué une perte de croissance sans équivalent. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien les dossiers, tous le disent, mais c'est pas possible que tout remonte au chef de l'État. Je prends l'exemple de Leonarda, qui est celui qui est le plus grotesque, mais vous prenez Sarkozy, c'est François Fillon qui me raconte, c'est tout juste s'il voulait pas choisir le modèle des voitures qui étaient fabriquées où et dans quelle usine. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir aussi ce que l'attente des Français. Il y a des gens de PME qui sont en difficulté, qui tentent de joindre le président de la République pour sauver leur entreprise. C'est vraiment l'homme qui va guérir les écrouelles et qui va tout sauver. Il y a un moment, il faut se rendre compte.
On revient au vocabulaire monarchique.
Voilà. Il faut donc se rendre compte qu'à un moment, pourquoi ça marche les villes, les grandes villes? Elles sont bien gérées. Regardez comment Lyon, Nantes, Bordeaux, Le Havre se sont complètement transformés, mais parce que le mode de gouvernance n'a rien à voir avec celui des institutions de la 5e.
Vous ne citez pas Paris, Arnaud Lepiloire.
Non, mais je pense qu'il ne faut. Je suis d'accord, il ne faut pas surévaluer le rôle des institutions. Si la France va mal, ça n'est pas qu'à cause de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, bien sûr. Il ne faut pas non plus sous-évaluer ce rôle parce que il est important. La prise de décision, en effet, se fait d'une certaine façon. Mais surtout, je crois que c'est la manière, parce que ce que vous dites, vous citez des exemples en effet, dans votre livre de cas où des problèmes très concrets, de tout petits problèmes sont montés jusqu'à la tête de l'État. Je ne crois pas que ça fonctionne de manière globale comme cela. Il y a quand même des institutions, il y a quand même des corps intermédiaires qui œuvrent, etc. Simplement, moi, ce qui me paraît très embêtant, c'est que la manière dont les citoyens perçoivent le pouvoir est celle-là. C'est-à-dire que, voilà, eh ben, si on a un problème, on peut demander sur un plateau de télévision à Nicolas Sarkozy de résoudre tous vos problèmes, et il va le faire, il va dire, ah ben oui, je vais appeler, etc. Ça, je pense que c'est le contraire de la démocratie, en réalité. On parle beaucoup de démocratie, mais la démocratie, c'est le fait d'élaborer des processus qui permettent de faire des compromis sur les valeurs qui sont nécessairement diverses dans notre société. Et ça se fait pas avec un homme.
Trois invités pour se poser cette question aujourd'hui. Faut-il supprimer l'élection présidentielle? Donc Arnaud Lepiloire, professeur de droit public qu'on vient d'entendre, Guylaine Untheidheimer et Guillaume Perrault. Au loin, les pyramides. Ce n'est pas une nouvelle comparaison avec le président Pharaon. Cette fois, c'est le titre de cette chanson signée Radio Elvis. Et jusqu'à 13h, on tentera de déterminer le portrait robot du président idéal. Pas de l'homme, évidemment, mais de sa fonction. Midi 48 sur France Inter.
Colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, 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 au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Aujourd'hui encore, nos balances qui passent savent nous montrer la voie de nos luttes. Aujourd'hui encore, nos balances qu'ils passent savent nous laisser quelques traces de lutte. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles.
faut-il supprimer la question de faut-il supprimer l'élection présidentielle? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec ces nombreux commentaires qui nous arrivent sur le site internet de l'émission, la page franceinter.fr, @ledebatdemidi. Alors évidemment, pourquoi ne pas parler du mouvement de la 6e République qui se bat pour une constituante, le mouvement de Mélenchon, également ces commentaires, beaucoup d'idées pour pouvoir instaurer une nouvelle forme de démocratie. Pourquoi ne pas parler d'un référendum plébiscite au bout de 4 ans d'exercice présidentiel sous la forme d'une question? On demande, êtes-vous satisfait du travail accompli? Oui, non. Ensuite, au prolonge de 3 ans ou pas, un anonyme qui nous propose, alors il y a à boire et à manger, hein, pourquoi ne pas lancer une émission de télé-réalité Président Académie où tous les 5 ans les spectateurs, téléspectateurs pourront choisir sur ce...
Heureusement. Il y a eu ça pour, pour les jeunes, il y a eu ça, je serai président, il y a eu un jeu télévisé.
Une autre idée, celle de Navi sur franceinter.fr, pourquoi ne pas imaginer l'élection d'un trio? Ça dépersonnaliserait le pouvoir et obligerait les 3 élus à se mettre d'accord pour toute décision. Et puis Zabou qui nous dit, les Français sont attachés à élire un président, ils votent massivement à cette élection, et si c'était plutôt pour voter contre, ces élections ne sont pas du tout représentatives. À quoi devrait ressembler, selon vous, Guillaume Perrault, le président idéal, qui serait pas celui de 62 ou de 58, on a bien compris?
Alors, d'abord, il y a quelque chose de très intéressant dans les interventions des internautes, c'est l'idée d'un pouvoir exécutif confié à plusieurs têtes. Vous savez, on a une ingéniosité constitutionnelle en France qui est sans limite. Et depuis la Révolution française, on a à peu près tester tous les modes d'organisation du pouvoir exécutif. Le directoire, ils étaient 5 dans cette à représenter le pouvoir exécutif. On a eu à peu près toutes les formules imaginables. Et ce qu'a voulu faire de Gaulle avec l'idée de monarchie républicaine, qui n'était pas à ses yeux une dérive, la monarchie républicaine, c'est le cœur du projet gaullien. Il le revendiquait. Et dans ses mémoires d'espoir, il a dit qu'il avait voulu régler un problème pendant, tenez-vous bien, depuis 1793, sous-entendu depuis l'exécution de Louis XVI. Textuellement, il s'est écrit dans les mémoires d'espoir du général de Gaulle. Bon. Alors, le fond de notre désaccord, c'est quoi? C'est que mes honorables contradicteurs considèrent que tout ça, c'est des vieilleries, que l'histoire ne compte pas, qu'on peut faire table rase du passé et refonder tout à neuf, pour affronter le monde nouveau. Et moi, je ne crois pas ça. Je veux comme eux affronter le monde nouveau, mais en tenant compte de nos spécificités culturelles. Et l'exception française, je n'en ai pas honte, en matière politique et en matière institutionnelle.
Arnaud Pilouer.
Oui, alors vous dites qu'on a à peu près tout expérimenté, comme si nous n'avions pas déjà expérimenté l'élection directe du président de la République, mais je vous rappelle que c'est le cas en 1848.
J'ai dit on a tout expérimenté, terminé. donc oui, mais on a expérimenté
si,
ça.
Oui, comme si c'était la dernière mouture était la meilleure, ce qui ne me paraît pas être une idée défendable constitutionnellement dans aucun pays. Mais enfin, voilà, si... ça a été expérimenté et si c'est resté comme une cicatrice pour les républicains pendant si longtemps, si en 1958 de Gaulle n'a pas voulu tout de suite proposer cette élection, ça n'est pas pour rien. Et c'est parce que les gens y étaient fondamentalement hostiles. Donc vous voulez tenir compte de l'histoire, très bien, tenez compte de toute l'histoire.
Mais la question c'est plutôt de savoir... dans le temps qui nous reste, à quoi devraient ressembler les institutions idéales? Peut-être pas le président idéal, les institutions idéales. Guylaine Ottenheimer.
Mais il y a une chose très intéressante, c'est il y a deux pays qui ont un peu copié nos institutions. Elles sortaient toutes les deux de dictatures très différentes. Il s'agit de la Pologne et du Portugal. Et ils ont pris un président élu au suffrage universel qui avait à peu près les mêmes pouvoirs que sous notre 5e République. Et ils se sont aperçus assez vite que ça ne fonctionnait pas. Et je prends un raccourci, mais par des systèmes très différents. Portugal est arrivé à un système où il y a un président de la République élu au suffrage universel, il y a un premier ministre qui exerce effectivement le pouvoir. Et la même chose en Pologne. En Pologne, tout le monde connaît M. Tusk, qui est le premier ministre polonais. Personne ne connaît le nom du président de la République.
C'est pareil en Grèce. Personne ne connaît le nom du président de la République.
Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important pour les Français qu'il y ait quelqu'un qui incarne la continuité de la France. Et c'est important qu'il y ait, je ne veux pas dire un chef de guerre, mais un chef de majorité, c'est un peu un chef de guerre. C'est quelqu'un qui dit, voilà, moi je veux me battre pour telle et telle idée que je vais essayer d'appliquer. Mais quand vous êtes l'arbitre, le recours, l'incarnation du pays, d'ailleurs tous les hommes politiques ont ce problème, il faut se représidentialiser. Ah mais il faut qu'il soit plus actif, mais non, il faut qu'il soit plus présidentiel. Il n'arrive pas à incarner les deux... pour remonter dans l'histoire, c'est le corps du roi. Voilà, il y a la personne et puis il y a l'incarnation.
Décidément, cette émission aurait été placée sous le signe de l'histoire. Alors, c'est Prokopis Pavlopouvos pour le président grec et pour le président allemand, c'est Joachim Gauck. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat de midi. Demain, alors que les résultats du brevet des collèges tombent, on reviendra sur cette fameuse réforme du collège juste avant les vacances. Un dernier point, hein, déjà malmené par les enseignants. Voilà que les chefs d'établissement commence à rejoindre les rangs de la protestation et on attend déjà évidemment vos réactions, vos commentaires et aussi pourquoi pas vos propositions de réforme sur franceinter.fr à la page Le Débat de Midi et sur notre répondeur 01 56 40 15 85.